Merci, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue à notre conférence hebdomadaire de tous les mercredis. La conférence de ce jour sera animée pour l'équipe pays des Nations Unies, pilier développement, Joseph Potopoto. Pour le pilier humanitaire, nous avons Sylvestre Moudingay. La situation sécuritaire et militaire nous sera donnée par le lieutenant-colonel Bass. Nous avons aujourd'hui avec nous un invité spécial en la personne de M. Abdallah Wafi, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé de l'état de droit. En raison de la situation particulière que nous vivons en ce moment, M. Wafi sera donc là pour vous donner ou répondre avec plus d'autorité à vos questions. Pour ce qui concerne la MONUSCO, nous avons juste deux points. D'abord, lancement ce mercredi 17 juillet 2013 sur le site de la MONUSCO des fiches d'information électorale. C'est donc une information électorale. Il s'agit d'une compilation d'informations, de faits et de chiffres sur les résultats des élections présidentielles et législatives de 2011 ainsi que des élections provinciales de 2006. Ces fiches fournissent des informations sur la répartition des sièges et aussi des données plus globales sur les caractéristiques de chacune des provinces. C'est un instrument de travail et de recherche conçu pour toute personne désireuse de s'informer sur le processus électoral, les journalistes, les étudiants, les enseignants et les chercheurs. Mon collègue de la division électorale de la MONUSCO est ici, Lucas, il est derrière moi, il sera disponible à la fin de cette conférence de presse pour répondre à toutes vos questions et vous donner de plus amples détails. Nous passons à la section genre. Le bureau genre de Goma, en collaboration avec le pôle d'action en genre et élections, a organisé le 12 juillet 2013 à la maison de la femme de Goma un atelier de sensibilisation des masses et de proximité. 50 membres, dont 42 femmes et 8 hommes, ont été renforcés en capacité sur la sensibilisation des masses et des proximités. L'objectif était de donner un ensemble de techniques de communication visant à atteindre un grand public. Le bureau genre, qui fait partie de la coordination du PAGE au Nord Kivu, va continuer avec les formations de formateurs pour combler le vide technique dans cette partie du pays. Je passe la parole tout de suite à Joseph Potopoto.
Merci, monsieur le porte-parole. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Bonjour, chers auditeurs de la radio CAPI. D'abord, une nouvelle de la FAO pour signaler que M. Raymond Tshibanda et Ndiaga Gueye, respectivement ministre congolais des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, et représentant de la FAO en RDC, procèdent ce mercredi 17 juillet dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères à la signature officielle du cadre de programmation pays 2013-2017. Cette cérémonie de signature marque la fin du processus de formulation du cadre de programmation par pays et le début d'une nouvelle ère de coopération entre le gouvernement congolais et la FAO. Priorité conjointe du gouvernement et de la FAO, les cadres de programmation pays, CPP, définit les priorités des collaborations entre la FAO et le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que les résultats à atteindre pour les 5 prochaines années pour soutenir les objectifs nationaux de développement en matière d'agriculture, de développement rural, de ressources naturelles et environnementales et aussi de sécurité alimentaire. Dans le cadre de son programme d'appui à la décentralisation et au développement local, et particulièrement en son volet appui à la décentralisation, le PNUD vient d'ériger deux bâtiments administratifs. Le premier pour la direction provinciale des recettes de la province du Kassai-Oriental et le second pour l'administration de la commune de Bipemba, toujours au Kassai-Oriental. Monsieur Adama Koulibaly, directeur pays du PNUD, remettra officiellement ce mercredi 17 juillet les deux édifices au gouverneur du Kassai-Oriental, Alphonse Ngoïka Sanji. Les coûts de financement pour la construction et l'équipement de ces deux bâtiments sont évalués respectivement à 250 000 $ pour le bâtiment administratif de la commune de Bipemba et à 300 000 $ pour celui de la direction provinciale de recettes. Enfin, Mandela Day ou la journée Nelson Mandela, ce jeudi 18 juillet. À cette occasion, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, s'est jointe aux femmes et aux hommes du monde entier pour rendre hommage à un homme qui, par sa force, sa clairvoyance et sa magnanimité, a transformé l'Afrique du Sud et changé les cours du XXe siècle. Ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO depuis 2005, Nelson Mandela a un jour déclaré que l'éducation était l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Pour la directrice générale de l'UNESCO, la vie de Nelson Mandela est une leçon pour nous tous, un exemple de persévérance dans l'adversité, de courage face aux défis les plus épineux, de clarté morale dans la défense de la réconciliation et de la paix. Madiba a enseigné au monde que la dignité des femmes et des hommes est le seul fondement sur lequel bâtir des sociétés justes. Nelson Mandela nous a montré aussi que la paix n'est pas un idéal ou une abstraction, mais un art de vivre, une manière d'interagir avec les autres et avec le monde, a déclaré la directrice générale de l'UNESCO, dont le texte intégral de la déclaration vous sera remis à l'issue de cette conférence de presse. Merci.
Merci, Poto Poto. Je passe la parole à M. Moudingay.
Bonjour à tous. La communauté humanitaire du Nord Kivu est préoccupée par les derniers développements sécuritaires dans la périphérie de la ville de Goma. Les mouvements de population restent pour l'instant limités, principalement du fait que la population avait déjà fui les zones où se déroulent actuellement les combats. Cependant, quelques 420 ménages, environ 2000 personnes, seraient arrivés à Goma et se trouveraient majoritairement dans des églises et des écoles. Les évaluations sont en cours pour connaître la situation de ces ménages nouvellement déplacés. Les combats font peser sur les populations civiles des risques de protection. En début de cette semaine, le coordonnateur de l'action humanitaire en République démocratique du Congo, M. Moustapha Soumaré, avait insisté que la récurrence des combats à proximité des zones habitées pose un sérieux problème de protection pour des milliers de personnes et risque d'avoir des graves conséquences humanitaires. Les acteurs humanitaires réévaluent actuellement les sites potentiels d'accueil des déplacés en provenance d'autres sites ou camps pouvant se trouver près des zones de combat. Près de 160 000 personnes vivent dans des camps et sites autour de la ville de Goma. En rapport avec la situation sécuritaire dans le nord de la province du Nord Kivu, signalons que quelques 66 000 personnes se seraient réfugiées en Ouganda au cours des derniers jours, fuyant les affrontements entre l'armée nationale et un groupe armé au nord-est de Beni. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, seuls 30 000 ont été effectivement enregistrés jusque-là. Une partie de la population se serait réfugiée dans la forêt. Les difficultés d'accès dans la zone ne permettent pas d'évaluer leur nombre ni leur situation. Par ailleurs, des pillages systématiques sont rapportés. Les structures médicales n'ont pas été épargnées, à l'instar de l'hôpital général de référence de Kamango, dont le dépôt a été pillé et détruit. Une cellule de crise a été mise en place à Beni afin de suivre l'évolution de la situation et actualiser les informations sur la situation à Kamango. Depuis la mi-juin de cette année, 13 cas suspects de fièvre jaune, dont un a été confirmé positif par le laboratoire de l'INRB, ont été enregistrés dans le territoire de Kasongo-Lunda, dans le district du Kwango. Nous sommes dans la province du Bandundu. D'autres prélèvements sont en cours. Ces cas sont répartis dans 6 aires de santé et 3 au moins de, il s'agit des enfants d'au moins de 5 ans. Des actions de sensibilisation sont actuellement menées. L'investigation épidémiologique des cas est en cours. Pour rappel, la semaine dernière, une campagne de vaccination contre la fièvre jaune a été organisée dans le district sanitaire de Cabinda, au Kasaï oriental, où 51 cas suspects de fièvre jaune, dont 19 décès, avaient été rapportés. Voilà.
Merci. Sans plus tarder, je passe la parole au lieutenant-colonel Bass.
Oui, merci monsieur le porte-parole et bonjour à tous. Donc nous commençons la présentation militaire par l'ouest de la République démocratique du Congo où un calme a été observé durant la semaine écoulée. En province orientale, aucun incident majeur susceptible de perturber l'environnement sécuritaire n'a été rapporté pendant la période sous examen. Néanmoins, la force de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo ont poursuivi dans cette province la conduite de leurs opérations conjointes dénommées Retour 2, Bienvenue à la paix, Point d'acier, initiées dans les régions de Dungu-Duru et Faradje dans le but de neutraliser les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur, LRA. En Ituri, Le sud du territoire d'Irumu demeure préoccupant du fait des activités négatives des miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI dans cette région. Face à cette situation, la force de la MONUSCO et les FRDC ont poursuivi dans ce district les opérations conjointes dénommées pierres d'acier, serres de l'aigle, visant à neutraliser ou à contraindre ces miliciens sous le commandement de Cobra Matata à rejoindre le programme DDR. En Nord-Kivu, la situation sécuritaire demeure toujours tendue, mais reste cependant sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Dans le Grand Nord, plus précisément dans la région de Beni et Lubero, les groupes armés s'emploient à constituer un front uni sous la houlette des Maïmaï Hilaire et du groupe armé de l'Alliance des forces démocratiques dans le but de mettre en place de nouvelles stratégies face à l'intention d'autres mouvements armés d'adhérer au processus d'intégration au sein des FRDC. Les tensions persistent entre les Rahia Mutomboki et les Maïmaï Kifuafua dans le territoire de Walikale. La force de la MONUSCO continue de déployer ses patrouilles intensives aériennes, motorisées et à pied dans les régions occupées par le M23, dans le but de dominer le terrain, relever les violations des droits de l'homme et assurer la protection des populations civiles. Elle poursuit également sans relâche, par le biais de sa brigade du Nord Kivu, ses 6 opérations unilatérales dans le but de sécuriser les populations civiles et de prévenir toute menace des groupes armés contre la ville de Goma, notamment le M23. Le lieutenant-général Carlos Alberto dos Santos Cruz, commandant de la force de la MONUSCO, poursuit actuellement sa visite d'inspection dans les zones de responsabilité des brigades du Nord et du Sud Kivu, initiée depuis le 11 juillet 2013, au cours de laquelle il a reçu des briefings sur la situation sécuritaire. Le 12 juillet, le déploiement rapide des forces d'intervention rapide de la MONUSCO et des agents de la police nationale congolaise déployés à Nyabiondo a permis la libération avec succès de 8 individus kidnappés par les éléments de l'Alliance pour un Congo libre et souverain, APCLS. En outre, à la même date, dans le territoire de Rutshuru sous occupation illégale du M23, un individu de 23 ans qui s'opposait au pillage de ses biens a été assassiné par un rebelle de ce mouvement à Rusenyi, situé à 2 km à l'ouest de Kabaya. À la même période, selon des sources concordantes, les éléments du M23 ont pillé 8 maisons dans la localité de Mugoha. Le 14 juillet à 14h, des combats à l'arme lourde ont éclaté entre le M23 et les FRDC dans la région de Mutaho, Mujaru, Sayo. Auparavant, les patrouilles aériennes de reconnaissance de la force de la MONUSCO menées au-dessus de la localité de Kibati et dans le périmètre des Trois Tours ont observé une concentration de pièces d'artillerie du M23 mais aussi le mouvement d'un char T-55 des mutins vers la région des Trois Tours de Kibati qui se dirigera plus tard vers Mutaho. De 15h à 18h, les accrochages entre les deux parties se sont poursuivis par des tirs de roquettes et d'obus de mortier, provoquant le déplacement d'environ 500 civils de la région vers Goma. Cependant, aucune position de la MONUSCO n'a été ciblée. Les FRDC ont maintenu leur ligne de défense et repoussé l'offensive du M23. Le 15 juillet, le lendemain donc, des combats à l'arme lourde ont repris entre les troupes gouvernementales et les mutins du M23 au cours desquels les hélicoptères d'attaque FRDC ont engagé les positions rebelles dans la région de Kibati. Des échanges de tirs intenses se sont poursuivis dans cette région jusqu'à 16h30, lorsque les troupes gouvernementales ont conquis le sommet de la colline du Nord. Les derniers retranchements du M23 sur la colline seront conquis par les militaires FRDC aux environs de 16h50. À 18h, toute la région de Mutaho était sous le contrôle des troupes de l'armée nationale congolaise. Vers 18h40, deux roquettes tirées par le M23 sont tombées à proximité des positions de la MONUSCO, situées à l'ouest de Munigi et aux environs de 19h, une autre roquette a atterri dans la région, située au sud du quartier Bujavu, près de l'aéroport, sans faire de victimes. À la même heure, des combats violents continuaient d'opposer les FRDC aux éléments du M23 à Kanyarushinya et sur les collines de Kibati. Dans la région de Beni et Lubero, une recrudescence d'activité du groupe rebelle ougandais de l'ADF Nalu, caractérisée par les accrochages répétés contre les forces gouvernementales, les enlèvements et attaques contre certaines localités de la région, ont rendu le climat sécuritaire extrêmement tendu, provoquant ainsi un déplacement massif des populations locales vers l'Ouganda. C'est dans ce cadre que le 14 juillet 2013 à 8h, des patrouilles robustes de la MONUSCO composées de troupes du bataillon népalais et des éléments des forces spéciales jordaniennes ont été déployées sur l'axe Beni-Mbao-Kamango, dans le but de déminer le terrain, évaluer la situation sécuritaire et assurer la protection des populations civiles. À 11h environ, 100 rebelles de l'ADF ont tendu une embuscade au casque bleu à 10 km à l'est de Mbao, les obligeant à riposter et à se replier vers une zone sécurisée. Un véhicule de transport de troupes et un autre de marque Land Cruiser touché aux pneus sont restés immobilisés sur place. Les troupes onusiennes, renforcées par des éléments projetés à partir de Mbao, ont lancé une contre-attaque sur les positions des assaillants et tué 10 rebelles. 2 casques bleus ont été légèrement blessés lors de ces combats. La MONUSCO a immédiatement déployé au-dessus de la région 2 hélicoptères de combat dans le but de neutraliser les assaillants et dissuader toute exaction contre les populations civiles. Le 15 juillet, une autre patrouille aérienne composée de 2 hélicoptères d'attaque fut lancée au-dessus de la zone d'embuscade dans le but d'évaluer la situation sécuritaire, mais aussi de neutraliser les éléments résiduels de ces forces négatives. De retour de mission, 2 impacts d'armes légères ont été retrouvés sur chaque aéronef sans dommage sérieux pouvant restreindre leur capacité opérationnelle. À ce jour, depuis le 9 juillet, nous avons enregistré 24 éléments en provenance de différents groupes armés, notamment 3 du M23 et 10 autres de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain et 4 de Maïmaï Niatoura. Au sud Kivu, la situation sécuritaire demeure toujours tendue mais sous le contrôle des troupes onusiennes et congolaises, en dépit d'un environnement sécuritaire jugé plutôt précaire. Depuis le 8 juillet, la force de la MONUSCO poursuit la conduite de ses 11 opérations unilatérales dans les différents territoires de la province du Sud Kivu, dans le but de combler le vide sécuritaire provoqué par le redéploiement des unités FRDC, mais aussi et surtout sécuriser les populations. Au Katanga, la situation sécuritaire est restée volatile la semaine dernière, à cause des activités des différents groupes Maïmaï. Toutefois, le 6e bataillon béninois continue à mener conjointement avec l'armée congolaise des patrouilles intensives dans la ville de Lubumbashi, à Manono et à Kalemie. Le 8 juillet, les FRDC ont mené des attaques contre les positions des Maïmaï Bakata Katanga déployées entre les territoires de Pueto, Manono, Mitwaba et tué 2 rebelles. Le secteur 2, quant à lui, a été calme. Et enfin, concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 1330 armées, dont 682 nocturnes et fourni 21 escortes, pendant que nos observateurs militaires ont quant à eux mené 318 autres patrouilles. Je vous remercie de votre attention.